J'ai connu Quentin à Expresso. Plusieurs années de suite, nous nous sommes croisés dans ce festival de jeunes journalistes. Plusieurs fois, nous avons ri. Mon premier souvenir de lui est un grand garçon blond et fin, déguisé en Che Guevara. Rien de très étonnant lorsque vous connaissez Quentin. Quentin Meilleur est un enfant de l'an 2001. Né dans les prairies vertes d'Alsace, il est rédacteur chez Combat. Jusque-là, tout est banal. On m'a confié la tâche de faire son portrait. Seulement vous éclairer sur les études qu'il fait, sa passion première, la composition de sa fratrie, s'il est un chat ou un chien, ne me semble pas pertinent pour le décrire réellement. Alors je lui ai posé quelques questions qui fusaient dans mon esprit, afin de creuser un peu mieux cette personnalité. Pour vous. Bonne écoute. Si tu devais être un politique, qui serais-tu ?
Dès l'instant où je me suis construit politiquement, en fait, je me suis très vite rangé à gauche, puisque ma gauche, enfin la gauche comme je la voyais, c'était plus un état d'esprit, voire même une manière de vivre, qu'une simple prise de position. Je la considérais en quelque sorte comme l'avènement de mes idéaux, selon lesquels la liberté, tout autant primordiale qu'elle soit, ne doit jamais prendre le pas sur certaines notions d'égalité. Donc pour moi, la gauche, c'était vraiment la réalisation d'idées, d'opinions qui m'étaient chères, qui me tenaient à cœur. Ainsi, mes deux meilleurs amis de lycée m'appelaient-ils respectivement, alors je cite, la gauchias et l'islamo-gauchiste. Très sympa de leur part. J'aurais pu choisir Jean Jaurès pour répondre à ta question, du coup. Mais je pense qu'un politicien actuel serait plus approprié. C'est plutôt dommage parce que j'aurais bien opté pour Coluche. Donc, quitte à me comparer à un politicien actuel, j'aurais du mal à me comparer à un socialiste, je parlais de Jean Jaurès, parce que ça fait déjà quelques années que je me suis aperçu que les idéaux de Jaurès sont aujourd'hui davantage présents dans l'actuelle extrême-gauche que dans l'actuel socialisme, puisque le socialisme a, selon moi, bien changé au cours des dernières décennies, même s'il garde dans ses rangs quelques personnes qui font encore espérer quelque chose du socialisme. Alors pour répondre à la question, je pourrais donc bien choisir Philippe Poutou, qui à l'inverse de bien d'autres politiciens en extrême gauche, ne s'exprime pas juste à une personne qui affirme que le prolétariat doit se ranger derrière lui, sans même savoir grand chose de ce qui constitue le prolétariat. Faut quand même que je précise que la question n'est pas facile. Je considère certes la politique comme primordiale dans notre société, mais de jour en jour, je ne peux pas m'empêcher de la trouver de plus en plus malsaine dans les faits. Cela dit, c'est là une autre bonne raison de choisir Philippe Poutou, puisque ce dernier cherche tout de même plus à faire valoriser ses idées qu'à réellement exercer le pouvoir.
Si tu devais être une pâtisserie à vegan, laquelle serais-tu ?
Compte tenu de mon ignorance totale en termes de gastronomie afghane, je dois bien honteusement avouer que pour répondre à cette deuxième question, Internet m'a beaucoup servi. Alors je suppose que la question n'est pas de savoir quelle est la pâtisserie afghane qui me plaît le plus au goût, mais bien à laquelle je ressemble le plus, ou du moins à laquelle je pense le plus ressembler. Après avoir fait quelques recherches, je dirais donc le halwa et verdak, qui consiste en un gâteau à la carotte. Non pas que je contienne des carottes, mais parce que cette pâtisserie sur la photo semble n'être qu'un bloc de gâteau sur lequel ont été concassées quelques amandes, quelques pistaches. Or, si on regarde, la recette complète est bien plus compliquée que cela. Le rapport avec moi, donc ici je vais me fier à ce qu'on me dit autour de moi, le rapport donc est que je donne, paraît-il, l'impression d'être totalement antisocial et insensible, donc bref, dépourvu de tout ou presque, alors que je révèle, il paraît toujours, un certain altruisme et une plus grande sensibilité qu'on ne pourrait le croire à ceux qui sont à mes côtés. Donc de même que cette pâtisserie révèle certaines saveurs à ceux qui la goûtent.
Si tu devais être une capitale, laquelle choisirais-tu ?
Sans hésiter, Dublin. L'Irlande a toujours été mon pays préféré, aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu une profonde admiration pour les paysages et la proximité avec la nature de ce pays, pour ses traditions et son histoire. Je suis très imprégné de l'univers celtique en général.
Si tu devais résumer ta famille et ton enfance en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais ?
La famille, c'est une institution pour moi. La mienne ne me croirait pas, puisque ce n'est pas de toutes mes opinions celle que je laisse le plus transparaître. Mais je suis d'abord très attaché au principe de famille, puisqu'un tel enchevêtrement de mystères d'identification, de transmission physique ou psychologique, etc. ne me laisse pas de marbre. Ensuite, j'ai la particularité d'être tombé au milieu d'une famille dont les membres ont une histoire ou une personnalité extraordinaire. Quant à l'enfance, c'est la plus belle période d'une vie, celle où rêver, espérer et croire n'ont rien d'absurde. C'est la seule période d'une vie dans laquelle tout soupçon de malsanité m'est inimaginable. Mon mon enfance personnelle se résume, je pense, au mot insouciance.
Si tu avais le choix entre porter des claquettes chaussettes ou porter un bob à vie, tu choisirais quoi ?
C'est très compliqué comme question, je précise que je ne suis jamais rentré dans un Bermuda de mon plein gré. C'est un choix très crucial à faire, mais je dirais quand même le bob, mais à condition de me cacher de tout le monde. La première option, elle, je ne la choisirais pas quand bien même je serais seul chez moi.
Si tu pouvais, là tout de suite, devenir l'auteur d'un livre, ce serait lequel ?
Soit Les Misérables, soit Germinal. Ce sont deux livres que je suis allé piquer dans la bibliothèque de ma sœur, et tous les deux ont en commun d'avoir été ceux qui m'ont réellement ouvert à la littérature. Je n'aurais sûrement jamais porté de réel intérêt à l'univers littéraire sans ces deux œuvres.
Si tu ne devais manger plus qu'un plat aliment jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi ?
La ratatouille, qui d'abord est probablement mon plat préféré avec la raclette, et qui de surcroît est un plat assez varié et assez sain pour être mangé jusqu'à la fin de ses jours sans problème.
Si tu ne devais choisir qu'un seul objet chez toi, tu garderais quoi ?
Ma guitare. Il n'y a aucun soupçon de rationalité dans ma réponse, donc je pourrais très difficilement me justifier là-dessus.
Si tu avais le choix entre rencontrer Olivier Véran ou Didier Raoult, tu choisirais qui ?
Le professeur Raoult, puisqu'actuellement, on ne peut que très difficilement, à mon sens, être à la fois au service de la politique et au service de l'humanité, il convient de plus en plus de choisir entre l'une et l'autre. Bien entendu, quand je dis politique, je le dis au sens référé, au sens gouvernemental. Cela dit, je n'en veux pas tellement à Véran, qui n'est pas arrivé au ministère de la Santé durant la meilleure période, mais j'admire profondément des gens comme Didier Raoult qui cherchent des solutions, tout en restant dans l'ombre, voire l'anonymat pour certains.
S'il ne te restait qu'une seule action à accomplir, laquelle serait-ce ?
Je dirais penser, puisqu'agir n'est pas forcément fructueux, et qu'une action mal réfléchie peut avoir un effet inverse à celui voulu. En revanche, la pensée n'est pas qu'un droit, elle est aussi une raison d'être qui vaut la peine, je pense, d'être le dernier acte de notre vie.
Si tu devais être un journal, lequel serais-tu ?
Compte tenu de la question 1, je pourrais répondre à l'humanité, que j'apprécie beaucoup, mais je n'aime pas beaucoup l'idée de rassembler des masses à tout prix, quand bien même elles se fondent sur des idées que je partage. J'apprécie grandement France Info, qui a su relever le défi de rendre l'information plus accessible, de l'expliquer avec une certaine objectivité quand d'autres médias se complaisent dans l'information en continu, et participe à cette ridicule course qui consiste à sauter sur tout semblant d'actualité. L'actualité ne devient pas information comme ça, il faut l'étudier, il faut la comprendre avec patience, sans se précipiter dessus, sans commencer à chercher quelle image est la plus susceptible de choquer, bref, sans prostituer l'actualité au risque de tomber dans une certaine malsanité. Donc oui, je pense opter pour France Info.
Israël ou Palestine ?
La Palestine. Je suis pacifiste dans l'âme, je me refuse à cautionner les actes guerriers d'un pays, mais s'il me faut vraiment faire un choix, je préfère me tourner vers le pays le plus démuni, le moins favorisé. Je ne soutiens pas une nation plus qu'une autre. Dans une guerre, j'ai souvent tendance à ne pas distinguer les deux camps opposés, mais plutôt, d'une part, le camp des peuples envoyés à la mort, et d'autre part, le camp des gouvernants et gourous. Je ne choisis pas la Palestine par mépris envers le peuple israélien, mais par mépris envers Reuven Rivlin. C'est-à-dire que son prédécesseur Shimon Peres fut un rempart au conflit israélo-palestinien, et voir que Rivlin, lui, a mis fin à toute éventualité d'un compromis entre les deux nations est assez terrible. Je ne peux pas dire que l'un des deux peuples est pire que l'autre, ce serait absurde, mais si une bataille traditionnelle est déjà une chose, une intifada en est une tout autre.
Si tu pouvais dire une phrase de conclusion qui te résume bien, ce serait quoi ?
C'est une phrase de Blaise Pascal. Je vous écris une longue lettre parce que je n'avais pas le temps d'en faire une plus courte. Il faut bien dire ce qui est, je n'arrive pas vraiment à synthétiser mon expression.
Ici se clôture donc la présentation de Quentin Meyer. J'espère que vous cernez maintenant mieux le personnage et que vous avez hâte de lire ses écrits et de le rencontrer dans Combat ou ailleurs. À bientôt.